Franchement, oubliez la carte de vœux habituelle avec l'étable silencieuse et la petite neige qui tombe.
Ouais, le fameux diorama sous verre avec les animaux parfaitement sages.
C'est ça. Oubliez tout ça. Parce que notre exploration en profondeur d'aujourd'hui, elle s'attaque à une réalité historique qui ressemble, je dirais bien plus à un thriller géopolitique sanglant qu'à un conte pour enfants.
Ah, c'est clair qu'on est loin de l'imagerie populaire.
On plonge directement dans les chapitres 2 et 3 de l'Évangile selon Matthieu et on se base sur les notes de cours hyper détaillées de l'historien et théologien Craig Kenner.
Des notes qui sont vraiment précieuses pour le contexte.
Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est pas juste de lire un texte pieux, mais vraiment de décoder les rouages d'une époque. Une époque marquée par des dictateurs paranoïaques, des crises de réfugiés et des marginaux qui sortent du désert pour bousculer l'ordre établi.
C'est un programme chargé.
Bon, décortiquons tout ça. Parce qu'il y a une mécanique sociale et politique absolument fascinante derrière ces lignes.
Et le défi, c'est justement de dépasser la surface de l'histoire que l'on croit tous connaître, tu vois. Comprendre l'Antiquité, c'est vraiment accepter de se départir de notre vision moderne et un peu aseptisée.
Ouais, de notre filtre du 21e siècle, quoi.
Tout à fait. Le but est d'analyser non seulement ce qui s'est passé, mais surtout l'intention littéraire et politique derrière la sélection de ces événements. Matthieu, il écrit pour un public du 1er siècle.
Un public qui vit sous occupation militaire romaine, faut le rappeler.
Exactement. Donc chaque détail mentionné, chaque lieu, chaque citation biblique qu'il utilise, c'est en fait une flèche décochée contre les structures de pouvoir de l'époque. Je suis passionné par la façon dont il construit ça.
La première flèche, elle est tirée dès les premières lignes du chapitre 2. Et c'est un choc culturel majeur.
Ah oui, les fameux visiteurs.
Voilà. On nous présente ce groupe de voyageurs qui cherchent un nouveau roi. La culture populaire en a fait les trois rois mages sur des chameaux.
Les fameux rois mages qui n'étaient ni trois ni rois en passant.
C'est fou, non?
Non. Les sources historiques nous dépeignent une réalité bien plus subversive.
Le docteur Kinner souligne qu'il s'agissait de Magoi en grec.
Des astrologues perses, en gros.
Des astrologues perses, ouais. On parle probablement de prêtres zoroastriens ou en tout cas de polythéistes. Et dans le contexte du judaïsme antique, l'astrologie, c'était pas juste la rubrique amusante à la fin du journal.
Ah non, pas du tout.
C'était une pratique formellement condamnée, parfois même passible de mort selon les textes de loi anciens.
Ce qui est fascinant ici, c'est la véritable tension narrative que ça crée. Pour un lecteur juif du 1er siècle, le terme magos avait une connotation hyper ambiguë.
Du genre un peu suspect ?
Totalement. Ça pouvait désigner des conseillers royaux orientaux très respectés, oui, mais c'était aussi super souvent utilisé pour décrire des charlatans, des manipulateurs de forces occultes.
D'accord, donc des mauvais magiciens en quelque sorte.
Ouais, c'est ça. Et l'ironie est juste mordante ici. L'auteur affirme que la divinité suprême d'Israël a choisi de révéler l'événement le plus crucial de son histoire, non pas aux grands prêtres de Jérusalem, pas à travers la Torah,
mais à des étrangers.
À des étrangers, des païens. Et en utilisant précisément leur médium interdit, c'est-à-dire l'observation des astres. C'est une inversion totale.
C'est un peu, en fait, c'est comme si aujourd'hui, un gouvernement décidait de communiquer une info classée secret défense ultra vitale en passant par un forme de hacker sur le dark web.
C'est une excellente analogie.
Plutôt que par ses canaux officiels, quoi. C'est contre-intuitif au possible. D'ailleurs, les notes mentionnent une explication astronomique assez intrigante sur cette fameuse étoile.
Ah oui, l'alignement planétaire.
Voilà. Il s'agirait pas d'une comète magique qui vole à basse altitude comme dans les films d'animation, mais potentiellement d'une conjonction planétaire majeure.
C'est l'hypothèse la plus solide, oui.
On parle de Jupiter, la planète qui était universellement associée à la royauté dans l'Antiquité, qui se serait alignée de manière spectaculaire dans le ciel nocturne vers, je crois que c'est l'an 4 ou 5 avant notre ère.
C'est exactement ça. Les astronomes modernes ont effectivement modélisé le ciel de cette époque et plusieurs phénomènes remarquables se sont produits.
Genre quoi ?
De multiples conjonctions entre Jupiter et Saturne ou Jupiter et l'étoile Régulus. Pour des astrologues perses, dont le métier consistait vraiment à scruter le ciel pour y lire les destins géopolitiques, c'était énorme.
Un tel balai cosmique dans la constellation associée à la Judée, c'était comme une alarme géante.
C'est ça, un signal clair qu'un nouveau souverain venait d'émerger dans cette zone. Le fait qu'ils se mettent en route avec des trésors, ça montre juste qu'ils appliquaient la diplomatie internationale standard de l'époque.
Genre on va rendre hommage au nouveau patron pour s'attirer ses bonnes grâces.
Exactement, de la pure diplomatie préventive.
Et du coup, ça les amène directement au palais de Jérusalem pour toquer à la porte de l'homme fort de la région, le fameux Hérode le Grand.
La pire personne à aller voir pour ça.
Ah mais totalement. La rencontre entre ces diplomates étrangers qui posent innocemment la question « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» et Hérode, ça doit être l'un des moments les plus tendus de l'histoire antique.
La tension devait être palpable dans la pièce.
Hérode, c'était pas un gentil souverain vieillissant, quoi. C'était un survivant politique terrifiant. Nos sources rappellent qu'il était d'origine édomite, donc il venait d'une région au sud de la Judée.
Ce qui posait un énorme problème de légitimité.
Voilà. Aux yeux d'une grande partie de la population et de l'aristocratie juive, il avait aucune légitimité religieuse ou dynastique pour siéger sur le trône de David. C'était un imposteur pour beaucoup.
Et la mécanique du pouvoir romain est vraiment essentielle pour comprendre la réaction de panique d'Hérode ici. Rome fonctionnait avec un système de roi-client.
Comment ça marchait concrètement?
En gros, l'Empire te donnait une armée et un titre. Mais en échange, tu devais garantir deux choses absolues. Le paiement régulier des impôts et une paix sociale parfaite.
Tolérance zéro pour les rébellions, quoi.
Zéro. Si une émeute éclatait, Rome te remplaçait immédiatement, et souvent en te coupant la tête au passage. Et Hérode, lui, il avait magistralement navigué dans toutes les guerres civiles romaines.
Il a retourné sa veste plusieurs fois, non?
Oh oui. Il avait financé Marc-Antoine au début, puis quand Marc-Antoine s'est fait écraser par Auguste, Hérode a eu l'audace incroyable de se présenter devant le vainqueur pour lui promettre exactement la même loyauté implacable.
Le culot du mec.
Mais Auguste l'a maintenu au pouvoir, fasciné par cette ruse politique. Il l'a trouvé utile.
Sauf que, bon, cette position ultra précaire, ça a engendré une paranoïa chez Hérode qui a complètement viré à la psychopathie avec les années. Il voyait des complots partout.
Sa biographie est un bain de sang intime.
C'est le mot. Les exemples tirés des sources donnent littéralement la nausée. Il a fait assassiner sa propre femme.
Marianne?
Ouais, la seule femme qu'il semblait vraiment aimer en plus. Il l'a tuée parce qu'il soupçonnait une infidélité et une trahison politique. À tort, d'ailleurs.
Et sa belle-famille n'a pas été épargnée non plus.
Ah, l'histoire du beau-frère est effarante. Le gars était un jeune homme de 18 ans qui occupait la fonction de grand prêtre. Il devenait apparemment un peu trop populaire auprès du peuple au goût d'Hérode.
Toujours cette peur de la concurrence.
C'est ça. Du coup, solution d'Hérode. Il l'invite gentiment à une fête à Jéricho et il le fait, entre guillemets, accidentellement noyé par ses gardes dans une piscine.
Une noyade tragique.
Sauf que, archéologiquement parlant, on a retrouvé la piscine en question et elle s'est avérée le faire qu'un mètre de profondeur.
Faut vraiment le vouloir pour s'y noyer par accident.
Et il faut ajouter à ce tableau l'exécution de trois de ses propres fils. Hein.
Ah oui, trois de ses fils. Dès qu'un de ses héritiers montrait un peu trop d'ambition ou d'indépendance, Hérode le faisait simplement étrangler. C'est ce climat de terreur absolue qui donne tout son sens à la fameuse boutade attribuée à l'empereur Auguste.
Maquelle ?
Auguste maîtrisait parfaitement le sarcasme romain. Il aurait déclaré qu'il valait mieux être le cochon d'Hérode que son fils.
Ouch, c'est violent.
En grec, c'est un jeu de mots féroce entre us, le cochon, et ouios, le fils. Comme Hérode se pliait techniquement aux lois alimentaires juives pour ménager son peuple, un porc dans son palais avait l'assureuil de mourir de vieillesse.
Ses enfants, visiblement, non.
Non.
Du coup, quand on saisit vraiment ce profil psychologique de chef de cartel antique, l'ordre de massacrer les enfants de moins de 2 ans à Bethléem, ça prend une autre dimension.
C'est plus juste un mythe cruel.
Exactement. Bethléem était située à quelques kilomètres à peine de sa luxueuse forteresse, l'Hérodion. Donc c'est plus un élément de conte fantastique, c'est juste une simple procédure administrative pour un tyran de cette envergure.
Une frappe chirurgicale préventive.
Voilà. Un concurrent potentiel vient de naître. Bon, on élimine toute la tranche d'âge, problème résolu. Le texte crée ici un parallèle vraiment saisissant. Le soi-disant roi des Juifs officiel agit exactement comme le pharaon d'Égypte dans l'Exode, qui massacrait les nouveau-nés hébreux.
L'inversion est totale. Et ce qui est fascinant ici, c'est que l'inversion va encore plus loin quand on observe la réaction du clergé local.
Ah ça, c'est hallucinant.
N'est-ce pas ? Lorsque les astrologues arrivent et qu'Hérode panique, ils convoquent immédiatement les scribes et les grands prêtres. Ces hommes, c'est l'élite intellectuelle et théologique de la nation entière.
C'est les experts bibliques en chef.
Et Hérode leur demande où le Messie doit naître. Et là, il n'hésite pas une seconde. Il déroule le parchemin du prophète Michée, au chapitre 5, et ils fournissent les coordonnées géographiques précises.
Bethléem, en Judée.
Exactement.
Et c'est là que je suis choqué par l'analyse de Kiner. Ils ont l'information exacte. Bethléem, c'est littéralement une promenade de quelques heures depuis Jérusalem.
Oui, environ 8 ou 10 kilomètres.
Même pas une journée de marche. Et pourtant, que font ces experts de la Bible ? Rien. Ils remballent leur parchemin, ils boivent un thé et ils rentrent chez eux.
C'est le silence radio.
pas un seul grand prêtre ne se dit qu'il serait peut-être bon d'aller vérifier. Je veux dire, l'événement cosmique attendu depuis des siècles est potentiellement en train de se produire juste en bas de la route, et ils font rien.
C'est une critique redoutable que fait l'auteur sur la séparation entre le savoir académique et l'implication réelle. Il y a probablement un mélange d'apathie spirituelle chez eux, mais aussi de pur instinct de survie.
Tu penses qu'ils avaient peur d'Hérode ?
Évidemment. Montrer de l'intérêt pour un roi rival alors que l'on se trouve dans le salon de l'homme qui a fait noyer le précédent grand prêtre, c'est littéralement signer son arrêt de mort.
Vu sous cet angle, ouais.
Mais sur le plan littéraire de l'évangile, le narrateur démontre que posséder la doctrine parfaite ne sert absolument à rien si elle ne mène à aucune action.
C'est fort.
Ce sont les marginaux perses qui sont le chemin, tandis que les gardiens du temple, eux, restent complètement figés.
Et cette inaction force carrément la famille de l'enfant à prendre le statut de réfugié. Il fuit, de nuit, pour échapper au massacre, direction l'Égypte.
Un choix géographique très lors de sens.
D'un point de vue purement historique, fuir en Égypte, bah c'était très logique apparemment. Alexandrie, la grande métropole du nord de l'Égypte, possédait une diaspora juive massive.
Une des plus grandes de l'Antiquité.
Ouais, les estimations de l'époque parlent d'un quart, voire d'un tiers de la population de la ville qui était juive. C'était l'endroit idéal où des fugitifs pouvaient facilement disparaître, trouver une communauté de soutien et surtout être hors de la juridiction d'Hérode.
La géopolitique explique très bien le voyage, mais la théologie explique pourquoi l'auteur insiste tellement dessus dans son récit.
Comment ça ?
L'Égypte, dans l'inconscient collectif d'Israël, c'est la maison de l'esclavage. C'est l'empire de la mort, l'endroit d'où Dieu a dû arracher son peuple avec violence lors du premier exode.
Le méchant de l'histoire biblique par excellence.
Et ici, la géographie spirituelle est complètement bouleversée. La terre promise, la Judée, est devenue la zone de danger mortel sous la coupe de ce faux roi.
Et l'Égypte devient le refuge.
L'Égypte, l'ennemi historique, devient le sanctuaire de sécurité qui préserve la vie du Messie. Ce roi commence son existence comme un fugitif en exil, ce qui l'aligne sur l'expérience de la précarité et de la souffrance humaine, plutôt que sur le pouvoir palatial.
Sous concept, ça me ramène à un détail super fascinant mentionné dans les recherches. Il y avait une ancienne tradition juive, consignée dans un texte rabbinique, la Mekilta.
Oui, un recueil très influent de commentaires de la loi.
Voilà. Et une des idées qui circulait dans ce texte, c'était que l'Esprit de Dieu, la présence divine, ne se manifestait et ne parlait qu'à l'intérieur des frontières strictes de la Terre Sainte.
Comme si Dieu avait une juridiction territoriale limitée, oui.
C'est ça, un Dieu avec un code postal, quoi. En faisant fuir le récit en Égypte, le texte brise complètement cette frontière idéologique. Ça nous dit que la sécurité spirituelle et l'action de Dieu ne dépendent pas d'une frontière physique. L'action salvatrice se déplace là où se trouvent les réfugiés.
C'est puissant. Et le retour de cette famille exilée quelques années plus tard va tout autant contourner les centres de pouvoir habituels.
Parce qu'Hérode finit par mourir.
Oui, Hérode meurt, dans des souffrances atroces d'ailleurs, selon les historiens. Et son royaume est divisé par Rome entre plusieurs de ses fils restants.
Par ceux qu'il a étranglés, évidemment.
Exactement. L'un d'eux, Archélaos, obtient le contrôle de la Judée, donc la région autour de Jérusalem et de Bethléem. Et les chroniques romaines de l'époque dépeignent Archélaos comme un type possédant toute la cruauté psychopathe de son père.
Mais sans l'intelligence.
C'est le problème. Il n'avait pas une once du génie diplomatique ou administratif d'Hérode le Grand. Il était si désastreusement incompétent et violent qu'après quelques années à peine, une délégation conjointe de Juifs et de Samaritains est allée supplier Rome de le destituer.
Attends, les Juifs et les Samaritains se détestaient, non ?
Profondément. C'était des ennemis jurés.
Faut vraiment imaginer le niveau d'horreur qu'il a fallu atteindre pour que deux peuples ennemis s'allient, prennent un bateau pour Rome et aillent se plaindre à l'occupant impérial.
Ça donne une idée de l'ambiance sous Archélaos.
Et Rome a fini par le virer d'ailleurs. Mais sachant qu'Archélaos dirige le sud à ce moment-là, la famille de réfugiés décide de ne pas y retourner. Ils contournent la Judée et s'installent tout au nord, en Galilée.
Plus précisément dans une petite bourgade appelée Nazareth.
Et quand on dit bourgade, les sources insistent. Faut imaginer un hameau agricole ultra-orthodoxe. On parle de 400, peut-être 500 habitants maximum. Un trou perdu.
Un lieu d'une obscurité totale. D'ailleurs, c'est intéressant, Jésus et Joseph sont identifiés comme des tectones en grec.
On traduit souvent ça par charpentier dans les Bibles, non ?
Souvent, oui. Mais le mot désigne plus largement des artisans du bâtiment, des travailleurs manuels de la pierre et du bois.
D'accord. Des ouvriers du bâtiment, en gros.
Voilà. Et à seulement 6 km de Nazareth se trouvait Séphoris. C'était une grande cité que les Romains avaient récemment incendiée pour mater une rébellion.
Ils aimaient bien brûler des trucs pour l'exemple.
Toujours. Et à l'époque où il s'installe, Séporis était en pleine reconstruction frénétique. C'était très probablement le grand chantier de la région, où les artisans allaient chercher du travail tous les matins.
Donc ils n'étaient pas juste des philosophes isolés qui méditaient sous un arbre.
Pas du tout. Ils évoluaient dans un monde de labeur rude, parmi les classes populaires qui reconstruisaient à la sueur de leur front ce que les empires détruisaient.
Et c'est là que je trouve que l'auteur de l'Évangile fait preuve d'une virtuosité intellectuelle vraiment sidérante. Il arrive à relier cette petite bourgade, poussiéreuse, Nazareth, aux immenses promesses de l'Ancien Testament.
Ce qui n'était pas facile, vu que Nazareth n'est jamais mentionné dans l'Ancien Testament.
Bah oui, il n'y a aucune prophétie qui dit genre « le Messie grandira aux quatre rues de Nazareth ». Nos sources nous expliquent que Matthieu utilise une méthode d'interprétation antique appelée le Gezer Hashava.
Une technique très pointue des rabbins de l'époque.
Pour essayer de vulgariser, je me suis dit que c'était un peu l'ancêtre du lien hypertexte sur Internet.
Comment ça ?
Bah, c'est une technique où, si deux textes différents de la Bible utilisent un même mot rare ou un concept super spécifique, on considère qu'ils s'éclairent mutuellement. On clique sur le mot dans un texte et ça nous renvoie à tout le contexte de l'autre texte.
C'est une super image ! Si on relie ça au contexte global de l'auteur, le Gezer Hashava exigeait vraiment une maîtrise absolue des textes originaux.
Il fallait connaître sa Bible par cœur, quoi.
Plus que ça, Matthieu ne se contente pas de citer la Septante, la traduction grecque commune de l'époque. Il traduit souvent directement depuis l'hébreu pour faire ressortir des nuances très précises.
Il cite le prophète Osée, par exemple, « D'Égypte j'ai appelé mon fils ».
Voilà. À l'origine, ça parlait historiquement de la nation d'Israël qui sortait d'Égypte, mais lui, il l'utilise pour montrer que Jésus revit littéralement l'histoire fondatrice de la nation.
Et pour justifier le mot « nazaréen » alors que ça n'existe pas dans les prophéties.
Il fait très probablement un jeu de mots complexe avec le terme hébreu « netzer », ça signifie « la branche » ou « le rejeton ».
Ah oui, le fameux rejeton d'Isaïe.
C'est ça. Ça fait écho à une prophétie majeure d'Isaïe sur un nouveau roi de la lignée de David qui pousserait à partir d'une souche apparemment morte ou coupée.
Franchement, c'est un niveau de lecture tellement dense. Je me demande comment un auditeur moderne peut saisir ça sans qu'on lui explique tout. C'est comme une blague remplie de références pop culture ultra obscures. Si t'as pas vu le film d'origine, tu passes à côté de tout.
L'auteur s'adressait clairement à des gens qui baignaient dans ses textes depuis l'enfance.
Et cette construction narrative, elle nous propulse d'un coup 30 ans plus tard. L'enfant obscur de Nazareth a grandi et le moment de son apparition publique est arrivé.
Le chapitre 3.
Exactement. Et encore une fois, la mécanique du pouvoir qu'on attendrait est ignorée. L'annonce de l'arrivée de ce roi ne se fait pas dans le confort du temple de marbre à Jérusalem.
Ça aurait été trop classique.
Grave. Le héros de cette nouvelle ère, il émerge littéralement des marges sociales et géographiques. Parlons un peu de Jean-Baptiste.
Le choix du désert comme base d'opération pour Jean, c'est tout sauf un hasard touristique. Historiquement, le désert de Judée, cette région aride qui descend vers la mer Morte, c'était la zone de repli par excellence.
Le repère des hors-la-loi ?
Entre autres, oui. C'était le refuge des bandits, des rebelles politiques qui fuyaient les autorités romaines, mais c'était aussi le lieu de prédilection des sectes apocalyptiques.
Comme la communauté de Qumran, ceux qui ont écrit les fameux manuscrits de la mer Morte.
Absolument. Ces Esséniens avaient quitté Jérusalem parce qu'ils étaient convaincus que le temple et ses prêtres étaient irrémédiablement corrompus. Ils sont partis vivre dans des grottes pour attendre l'intervention divine dans la pureté et l'isolement du désert.
Jean-Baptiste s'inscrit totalement dans cette lignée de rupture radicale avec le système. Et son apparence physique est un message de protestation en soi.
Ah, son style vestimentaire est très parlant.
Le docteur Kinner souligne qu'il s'habillait de poils de chameau avec une ceinture de cuir. C'est pas un choix de mode excentrique ou un style hipster antique. C'est une citation visuelle hyper précise du prophète Élie.
Le plus grand prophète de confrontation de l'Ancien Testament.
Exactement. Quand les gens le voyaient, ils comprenaient le message sans qu'il ait besoin de parler. Et son régime alimentaire de survie complète le tableau. Des sauterelles et du miel sauvage.
Un régime plutôt rude.
Petite précision technique intéressante tirée des sources d'ailleurs. Manger des insectes, comme des criquets ou des sauterelles, bah c'était tout à fait cachère selon le livre du Lévitique.
C'est bon à savoir.
Oui. Et le miel, lui, c'était probablement pas du miel d'abeilles d'élevage bien propre, mais du miel récolté rudement en enfumant des ruches sauvages dans les fentes des rochers.
Cette vie d'ascèse extrême, ça donne un poids moral immense à son message. Jean, il ne prêche pas un léger ajustement moral du week-end.
Il demande quoi alors ?
Il exige la métanoïa. C'est une repentance qui implique un changement d'esprit, de valeur et de direction de vie totalement radical.
Pas juste changer d'avis, mais changer de trajectoire.
C'est ça. Mais le truc le plus choquant pour la société judéenne de l'époque, C'est la méthode qu'il utilise pour valider ce changement.
Le baptême dans le Jourdain ?
Oui. L'immersion rituelle, ce qu'on appelle le mikvé, c'était une pratique super courante dans le judaïsme, on est d'accord. Mais ça servait à se purifier régulièrement après une impureté rituelle temporaire.
Genre, on se lave avant d'aller au temple.
Voilà. Par contre, l'immersion unique et totale, celle qui symbolisait un changement d'identité profond, elle était principalement réservée aux prosélytes.
C'est-à-dire ?
Aux païens.
Aux étrangers qui voulaient se convertir au judaïsme et qui devaient, symboliquement, laver la souillure de leur passé païen pour repartir à zéro.
Attends, donc il prend un rituel fait pour les païens ignorants et il exige que les citoyens juifs s'y soumettent.
Exactement. Il dit aux juifs de naissance qu'ils ont besoin du même nettoyage de fond en comble que les étrangers.
Faire subir ça à des citoyens judéens qui étaient fiers de leur lignée, c'est d'une audace folle, hein. J'ai pensé à une analogie.
Dis-moi.
Imagine qu'on fasse partie des membres fondateurs d'un club de golf extrêmement prestigieux. Ta famille y est depuis des générations, t'as ton nom sur la plaque à l'entrée, tout le monde te connaît.
Le statut social absolu, voilà. Et là, un type un peu sauvage, qui sort des bois, vient te dire que ta carte de membre VIP, bah elle vaut plus rien. Et que si tu veux vraiment entrer dans le club, tu dois repasser par le processus d'initiation humiliant qui est normalement réservé aux inconnus qui n'ont aucun pédigré.
Il démolit l'idée que l'héritage religieux garantit la sécurité.
C'est exactement ça. Il remet les compteurs à zéro pour tout le monde.
Et la confrontation devient carrément explosive lorsque l'élite religieuse de Jérusalem, donc les pharisiens et les sadduciens, décide de descendre dans le désert pour l'inspecter.
Ah, la fameuse rencontre.
Jean ne fait pas dans la dentelle. Il les accueille avec une des insultes les plus graphiques et violentes de l'Antiquité. Il les appelle « race de vipères ».
Ce qui sonne déjà pas très sympa aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pire, non ?
Bien pire. Il y a une croyance qui était très répandue dans le bassin méditerranéen gréco-romain et qui est documentée par des auteurs anciens comme Pline ou Hérodote.
Une croyance sur les serpents, quoi ?
Oui. On pensait, à tort évidemment sur le plan biologique, que les femelles vipères étaient tuées par leurs propres petits. On croyait que les petites vipères dévoraient les entrailles de leur mère pour pouvoir naître.
Waouh ! Ok, c'est un détail biologique erroné, mais culturellement, il est dévastateur.
Complètement. En les appelant « race de vipères », Jean ne dit pas juste « vous êtes des serpents venimeux et fourbes ».
Il les traite littéralement de parricides.
Exactement. Il regarde ces hommes très respectables qui passent leur journée à se vanter d'être les nobles fils d'Abraham, les protecteurs de l'héritage de leur père, et il leur dit en face « vos actions hypocrites sont en train d'assassiner et de dévorer de l'intérieur la religion même que vos ancêtres vous ont léguée ».
C'est une claque monumentale. Et les sources précisent qu'il ajoute un jeu de mots brillant en araméen par-dessus ça. Il dit que Dieu peut créer des ben, des fils, à partir de ces aven, ces pierres du désert.
Ben et aven, oui.
En gros, il leur dit « votre génétique, c'est plus un bouclier. Dieu n'a pas besoin de votre ADN pour accomplir ses promesses ».
Et cela soulève une question importante sur la promesse finale de Jean, qui est vraiment la clé de tout ce passage. Il annonce que celui qui vient après lui va baptiser du Saint-Esprit et de feu.
Le fameux baptême de feu.
C'est une déclaration théologique massive, mais qui a souvent été lissée ou déformée par la tradition religieuse au fil des siècles.
Et c'est là que ça devient véritablement intéressant. Parce qu'il faut qu'on remette les choses en perspective ici. Dans la culture chrétienne ambiante aujourd'hui, on entend super souvent parler du baptême de feu comme d'une expérience hyper positive, extatique.
Oui, le feu du réveil spirituel.
Voilà. Avoir le feu de l'esprit, être passionné, enflammé pour une cause. C'est toujours perçu comme un don chaleureux, une vitalité intérieure. Mais les notes de notre analyse démontent complètement cette vision romantique, on est d'accord ?
Complètement. L'erreur commune consiste à isoler ce bout de verset de son environnement immédiat dans le texte.
Le fameux contexte ?
Toujours le contexte. Si nous analysons la structure du discours de Jean dans son ensemble, le feu n'a absolument rien de réconfortant ou de chaleureux.
Ce n'est pas un feu de camp pour chanter des chansons.
Pas du tout. Le verset juste avant, le verset 10, il avertit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé à la hache et jeté au feu.
Déjà, ça pose l'ambiance.
Et le verset suivant, le verset 12, décrit l'activité agricole du vannage. Il dit que le blé est gardé dans le grenier, mais que la paille inutile est jetée dans un feu qui ne s'éteint point.
Un feu inextinguible.
Oui. Et ça, pour un public juif du 1er siècle, c'est une référence explicite au concept de la géhenne.
Ouais. Faisons une pause là-dessus. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, la géhenne, ça fait historiquement référence à la vallée de Hinnom, qui était située juste en dehors des murs de la ville de Jérusalem.
Un lieu avec un lourd passé.
Très lourd. À différentes époques, c'était le lieu où l'on brûlait les ordures de la ville pour s'en débarrasser. Et dans des temps plus anciens, sous certains mauvais rois, c'était carrément un lieu de sacrifice idolâtre d'enfants. Des trucs abominables.
C'était perçu comme une décharge fumante, puante, incinérant constamment la pourriture.
Voilà. Dans la pensée juive, cet endroit physique, la vallée d'Hinnom, c'est devenu la métaphore ultime, le symbole même de la destruction finale et du jugement divin implacable.
Exactement. Et donc, le feu du verset 11, coincé entre l'arbre coupé pour être brûlé au verset 10 et la paille incinérée au verset 12, c'est clairement le feu purificateur du jugement.
Pas une petite étincelle de passion dans le cœur, quoi.
Non, c'est une menace directe de destruction. Jean annonce un tri imminent, une séparation brutale. Le vent, ou l'esprit, d'ailleurs le mot hébreu « ruach » signifie à la fois le vent et l'esprit, ce souffle va séparer ce qui a du poids, le blé, de ce qui est vide, la paille.
Et le feu consumera le reste. C'est terrifiant, en fait.
C'est un avertissement très dur. Et il ajoute que celui qui tient cette pelle à vanner pour trier l'humanité possède un statut qui défie l'entendement. Jean déclare qu'elle n'est même pas digne de porter ses sandales.
Ce détail des sandales, le docteur Kinner insiste dessus, et c'est crucial pour comprendre la hiérarchie. À l'époque, suivre un grand rabbin, c'était accepter d'être son serviteur personnel à temps plein.
C'était le prix de l'éducation.
C'est ça. Les disciples faisaient tout en préparer les repas, porter les rouleaux, faire le ménage. Le Talmud précise même plus tard qu'un disciple juif devait faire pour son maître tout ce qu'un esclave ferait, à une seule exception près.
Les pieds.
Exact. Défaire les lanières des sandales et laver les pieds poussiéreux, c'était la ligne rouge absolue.
Trop dégradant.
Toucher la saleté des routes sur les pieds d'un autre, c'était considéré comme beaucoup trop avilissant pour un homme libre. C'était une tâche strictement réservée aux esclaves non-juifs de la maison.
Et donc, en disant ça, Jean se positionne volontairement encore plus bas qu'un esclave face à ce Messie qui arrive.
C'est une démonstration d'humilité hallucinante de la part du plus grand prophète du moment.
Et cette humilité, elle s'explique par la véritable identité de celui qui vient. La promesse de répandre l'esprit n'est pas une mince affaire théologique.
C'est pas donné à tout le monde.
Dans la théologie de l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Joël au chapitre 2, la capacité de déverser l'Esprit divin sur toute chair humaine, c'est une prérogative absolue, exclusive et inaliénable de Yahvé lui-même.
Le Dieu créateur.
Oui. Aucun prophète, aussi grand soit-il, aucun roi, aucun archange même, ne possède cette autorité de baptiser dans le Saint-Esprit.
Seulement Dieu.
Donc, en attribuant directement cette action à la personne qui arrive derrière lui, Jean est en train de déclarer devant tout le monde que l'incarnation de Dieu lui-même s'apprête à marcher sur les rives du Jourdain.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Si on prend un peu de recul sur l'ensemble de ces deux chapitres, de la conjonction planétaire des Perses au régime alimentaire du prophète dans le désert, on réalise qu'on a affaire à un texte d'une subversion politique et sociale qui donne le vertige.
Rien, absolument rien, ne se passe comme prévu par l'establishment de l'époque.
C'est un dynamitage en règle de toute leur certitude. L'auteur nous montre que les rois légitimes et reconnus par le puissant empire romain agissent en fait comme des bêtes sauvages ivres de sang.
Pendant que les érudits religieux, qui possèdent toute la connaissance théologique parfaite, manquent totalement le coche par pure lâcheté et compromission.
Et à l'inverse, ce sont les marginaux, étrangers, ceux qui pratiquent des arts magiques interdits, qui se révèlent être les seuls capables de lire les signes du temps et de se prosterner.
Le sauveur cosmique de l'univers, celui qui a le pouvoir de baptiser de feu, il commence son règne non pas sur un trône de marbre, mais dans la vulnérabilité absolue d'un petit enfant réfugié.
Fuyant des escadrons de la mort gouvernementaux.
Exactement. Avant d'aller se cacher dans un village d'ouvriers obscurs pour travailler le bois.
Et 30 ans plus tard, son annonceur officiel est un ascète marginal qui insulte publiquement le clergé en les traitant de tueurs de parents. C'est une critique implacable de la complaisance, du confort et de l'arrogance des puissants.
Le contexte historique, quand on prend la peine de l'étudier, ça redonne vraiment à cette histoire millénaire toutes ces arêtes tranchantes. On est très loin du petit conte pastoral apaisant pour les fêtes de fin d'année.
C'est une histoire qui est brute, chaotique. Une histoire où l'action divine infiltre le monde de manière subversive, par le bas, par les périphéries, en court-circuitant systématiquement les palais luxueux, les temples officiels et les fameux comités d'experts.
C'est un renversement de toutes les valeurs humaines du pouvoir.
complètement, ce qui, personnellement, laisse une pensée assez inconfortable en suspens à la fin de cette exploration. Si les individus les plus éduqués, les plus puissants et les plus religieux du 1er siècle ont été incapables de reconnaître un changement de paradigme majeur de cette envergure, simplement parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il prenne la forme du pouvoir politique, de la richesse ou du confort académique ?
C'est une question très actuelle.
Ouais. Quelles réalités fondamentales dans le monde d'aujourd'hui pourrions-nous complètement ignorer simplement parce qu'elles émergent d'endroits obscurs ou parce qu'elles sont portées par des voix en marge que nous ne jugeons pas dignes d'être écoutées? Le vrai changement de fond, apparemment, ne s'annonce que très rarement avec l'approbation et l'accord des élites en place.